France Culture.
La science CQFD, Antoine Beauchamp.
Les bactériophages, littéralement mangeurs de bactéries, sont présentés depuis plusieurs années comme un moyen de lutte alternatif contre l'antibiorésistance. Pourquoi n'y a-t-on pas encore recours de façon courante ? Les bactériophages sont considérés comme l'entité biologique la plus abondante sur Terre. Cette famille de virus découverte au début du XXe siècle présente l'avantage de ne s'en prendre qu'aux bactéries. Alors que l'antibiorésistance fait partie des 10 plus grandes menaces pour la santé mondiale identifiées par l'OMS, quelles sont les raisons qui limitent encore le recours aux bactériophages ? Du passé au présent, on vous raconte l'itinéraire de ces virus qui participent à de grandes avancées dans le domaine de la biologie moléculaire et qui pourraient devenir les meilleurs amis de l'homme. Bactériophages, une épopée thérapeutique. Et pour parler de l'histoire et de l'actualité des bactériophages, nous sommes aujourd'hui en ligne avec Anne Chevalereau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse CNRS au laboratoire microbiologie moléculaire et biochimie structurale à Lyon, chef d'équipe au sein du groupe de recherche écologie moléculaire et évolution des phages et membre du réseau de recherche phages.fr. Et nous sommes en studio avec Jérôme Gabart. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'entreprise Biomage. Bienvenue à tous les deux et bienvenue à vous qui nous écoutez. Si vous avez envie de lire les sources qui nous ont permis de préparer cette émission, sachez que c'est possible. On partage tous les jours plusieurs liens vers des articles, des livres, des vidéos sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky @ScienceCQFD. Alors pour commencer, Jérôme Gabart, j'évoquais l'idée que c'était une longue histoire finalement, rapport aux récentes avancées dans le domaine de la médecine et de la biologie, cette histoire des bactériophages. C'est une approche qui consiste finalement à utiliser des virus pour lutter contre des infections bactériennes. Et c'est une histoire qui a plus d'un siècle. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter dans quel contexte on a commencé à s'intéresser à ces bactériophages ?
Tout à fait. Eh bien, ça a commencé par la découverte d'un scientifique anglais, un biologiste, qui s'est rendu compte que l'eau du Gange purifiée pouvait faire disparaître une bactérie qui est responsable du choléra. Ça, c'était en 1896. Ensuite, en 1915, il y a un autre biologiste, microbiologiste anglais, qui s'appelle Frédéric Twort, qui a mis en évidence la présence de quelque chose qu'il n'arrivait pas à caractériser comme un bactériophage, mais qui a fait des hypothèses d'un produit biologique qui semblait être responsable de l'inhibition de la croissance de bactéries sur des boîtes de pétri. Ça faisait des espèces de petites taches claires. Quand vous faites pousser une bactérie sur une boîte de pétri, en fait, vous avez un espèce de voile bactérien opaque. Et sur ce voile bactérien, il y avait des trous qui apparaissaient, qu'on appelle des plages de lyse aujourd'hui. Donc il a mis en évidence ce phénomène. Et puis, pour nous, Français, en particulier, le découvreur de la phagothérapie, c'est Félix Derel. Mmh. Qui a vraiment mis en évidence l'existence de ces virus tueurs de bactéries et surtout leur usage pour soigner des maladies infectieuses bactériennes.
Félix Derel donc était un disciple de Louis Pasteur et qui lui a mené cette étude sur des soldats de la Première Guerre mondiale qui étaient atteints de dysenterie et à partir de là finalement c'est lui qui a nommé ces bactériophages, qui a affirmé finalement à la suite de Twort que des virus pouvaient détruire des bactéries. Comment cette découverte est-elle accueillie ? J'ai l'impression que ça a été vraiment un engouement mondial à ce moment-là, puisque bien sûr, on rappelle, à cette époque-là, on n'a pas d'antibiotiques.
Oui, il y a eu vraiment un engouement mondial, parce qu'on n'avait aucune solution pour soigner ces infections bactériennes à l'époque. Les gens mouraient d'une infection bénigne qui pouvait vraiment se dégrader en quelque chose de très grave. Et là, on a enfin eu accès à quelque chose qui semblait pouvoir arrêter les infections bactériennes. Mais ça n'a pas été aussi facile que ça, parce que Félix Derel, en fait, ça n'était pas quelqu'un vraiment du secteur biologique classique. Il n'avait pas été formé. Il est arrivé à l'Institut Pasteur, un peu comme un outsider. Mm-hmm. Il a été embauché un peu comme un espèce de, je vais pas dire d'auditeur libre, mais non rémunéré à l'Institut Pasteur. Et c'est là qu'il a commencé à faire ses recherches et qu'il a pu mettre en évidence, notamment sur la dysenterie, que lorsqu'on faisait une filtration de selles de patients, pour être très clair, hein, puisque les bactériophages se propagent là où il y a de la bactérie. Et donc, dans ces selles de patients qui sont en rémission, donc qui sont en fin de maladie, il s'est rendu compte que dans ces selles, eh bien, si on filtrait ces selles avec une espèce de bougie poreuse, qui d'un côté laisse les bactéries, de l'autre côté conserve les phages, en quelque sorte, et qu'on administrait ça sur des cultures bactériennes, eh bien, on arrivait à complètement clarifier les cultures bactériennes de cette bactérie.
Alors du coup, cette décennie 1920-1930, est-ce qu'on peut dire que ça a été la décennie des phages et la course, d'une certaine façon, la première course à la phagothérapie ?
Absolument. Absolument. Alors avec des essais dans différents pays. Mais malgré tout, il faut se souvenir qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas voir, on ne pouvait pas visualiser la présence des phages. Donc il y a quand même eu une certaine polémique qui est apparu notamment parce que lorsque les phages ont été découverts, certains laboratoires pharmaceutiques ont voulu les multiplier, les commercialiser et en faire des médicaments. Et malheureusement, la qualité de ces produits n'a pas toujours été à la hauteur. Il y avait des préparations de bactériophages qui en fait n'en contenaient pas du tout ou en contenaient des concentrations beaucoup trop faibles. Et donc, dans certains cas de figure, les traitements ne fonctionnaient pas. Parce qu'il y avait vraiment une façon de les produire que Félix Derel a vraiment bien décrit. Une manière de les enrichir, de les rendre plus virulents avec plusieurs passages sur les souches bactériennes de manière à les rendre plus forts. Et ces laboratoires pharmaceutiques ne faisaient pas forcément cette approche, n'utilisaient pas cette méthode pour développer des médicaments. Donc il y a eu quand même des très beaux succès, mais il y a eu aussi une période, notamment deux études qui ont été lancées aux États-Unis dans les années 30, pour vraiment démontrer ou non l'existence de ces bactériophages. On a remis en cause à un moment leur existence et leur réalité. Mmh. Et il a fallu attendre 1940 et les premières photos de microscopie électronique qui ont été faites en Allemagne, où on a pu enfin démontrer la présence réelle de ces bactériophages. Donc il y a eu une phase, oui, d'efficacité et de boom de l'utilisation des phages, de la phagothérapie, mais il y a eu aussi une période de doute.
Mmh. Anne Chevalereau.
Oui, si je peux apporter des précisions à ce que dit Jérôme très justement. C'est vrai que Derel s'est confronté un peu à une polémique, sur la nature même des bactériophages. À savoir qu'à l'époque, c'était pas vraiment clair que ces bactériophages étaient des entités virales et protéiques, puisque comme Jérôme l'a dit, à l'époque, il n'y avait pas encore la microscopie électronique qui permettait de faire ces observations et de vérifier quel type d'entité il s'agissait. Et notamment, il y avait un groupe de scientifiques à l'Institut Pasteur qui défendait la théorie qu'il s'agissait d'un principe enzymatique qui conduisait à la lyse de la bactérie. Et de là est né quand même un certain scepticisme du phénomène Derel, comme c'était appelé à l'époque. Mmh.
Un phénomène Derel qui a aussi été affecté par une découverte en 1928, celle de la pénicilline par le Britannique Alexander Fleming. Alors là aussi, il faut rappeler en quelques mots comment cette découverte d'une substance antibactérienne dans une moisissure conditionne l'avènement tardif, enfin plus tard des antibiotiques, Jérôme Gabart.
Oui, je crois que Fleming, il avait tout simplement laissé des boîtes de pétri.
Oui, c'est ça, ouais, c'était un oubli ouvert, pendant les vacances.
Un oubli pendant les vacances, enfin pendant un week-end, si ma mémoire est juste. Et qu'il y a un pénicillium qui s'est développé, donc un champignon qui s'est développé sur cette culture de bactéries et qui a abouti à se rendre compte que la bactérie était morte, en fait. Donc là, il a émis l'hypothèse que ce champignon, ce pénicillium, produisait quelque chose qui était capable de tuer la bactérie. Mais...
Et ça a été en fait finalement l'origine des antibiotiques. Et la faculté qu'a cette pénicilline que n'ont pas les bactériophages, quelle est-elle ? Comment expliquer qu'il y ait eu un tel engouement immédiat pour la pénicilline par son côté finalement synthétisable, on va dire ?
Oui, il y avait cet aspect synthétisable. Enfin, il a quand même fallu une bonne dizaine d'années pour arriver à produire des quantités suffisantes de cette pénicilline, de ce pénicillium, pour arriver à produire le produit chimique, le principe actif. Et ce qui a vraiment fait la grosse différence, c'est que les bactériophages, faut garder à l'esprit que ce sont des produits extrêmement spécifiques. Ces virus vont tuer une espèce bactérienne uniquement. C'est-à-dire que si vous avez une infection à staphylocoque doré, le bactériophage que vous allez utiliser va être capable de tuer une partie de ces staphylocoques dorés. Pas tous. Donc vous êtes obligé déjà d'en utiliser au moins 3 ou 4 pour arriver à toucher l'ensemble de toutes les souches de staphylocoque doré qui existent. Mais par contre, ces bactériophages-là n'auront absolument aucun impact, aucun effet sur une bactérie voisine qui peut être une Escherichia coli. Mmh. Les antibiotiques, quand on les découvre, on se rend compte bien que la pénicilline, ça tue quand même une quantité d'espèces bactériennes importantes, et donc c'est une capacité, une facilité d'utilisation qui est beaucoup plus vaste que des produits ultra spécifiques comme sont les bactériophages.
Si on devait utiliser une métaphore militaire, les antibiotiques ce sont des armes de destruction massive et les bactériophages des armes de précision chirurgicale.
Exactement.
Alors, on parlait du phénomène d'Erel, du fait que la pénicilline, la découverte de la pénicilline progressivement finalement détourne, on va dire en très gros, le monde occidental de la recherche sur les bactériophages et la phagothérapie. Mmh. Il y a une partie du monde quand même qui se désintéresse pas totalement de la recherche sur les bactériophages, c'est l'Union soviétique. Il y a une raison très historique à tout ça, c'est que l'un des collaborateurs de Félix d'Erel, qui s'appelait Georges Eliava, était géorgien, les deux avaient été invités finalement à présenter au début des années 30 par le gouvernement géorgien soviétique ses découvertes sur les bactériophages. Ils ont même créé, je crois, un laboratoire de recherche à Tbilissi. Mmh. Bon, ça s'est mal passé ensuite pour Georges Eliava, qui a été purgé durant les grandes purges staliniennes de 1937. Mais ça a fait que, quand même, l'Union soviétique s'est d'une certaine façon spécialisée dans cette recherche sur les bactériophages. Alors là, on a aussi la grande histoire qui rejoint cette histoire des bactériophages.
Ouais, absolument. Et en fait, l'Union soviétique a continué à développer des bactériophages contre plein d'espèces bactériennes différentes. Et ces bactériophages ont même été en fait utilisés par les militaires comme un moyen de traitement contre les infections. Et on les a redécouverts, la petite histoire veut qu'on les ait redécouverts lors de la première guerre d'Afghanistan sur des prisonniers soviétiques qui avaient à l'intérieur de leur paquetage des flacons de bactériophages pour se soigner contre les infections bactériennes. Et c'est un peu comme ça qu'on les a retrouvés, parce qu'on les avait un peu oubliés. Mmh. Et de l'autre côté, à l'ouest, il y a eu effectivement la découverte de la pénicilline, mais il y a eu aussi derrière une vague de nouvelles familles d'antibiotiques qui ont été découvertes, une quinzaine au moins, chacun avec des modes d'action différents. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit quand on parlera peut-être de la résistance aux antibiotiques. C'est qu'il faut des modes d'action différents pour que lorsque des bactéries deviennent résistantes à un premier mode d'action, eh bien qu'un deuxième mode d'action prenne le relais et soit capable de contrôler ces souches qui, par exemple, sont devenues résistantes à la pénicilline. Mmh. Donc il y avait ce côté ouest et ce côté est, et cette redécouverte des phages avec la guerre d'Afghanistan.
Alors Anne Chevalereau, un mot qu'on va beaucoup répéter dans cette émission, c'est le mot d'antibiorésistance. Jérôme Gabart l'évoquait à l'instant. Est-ce que cette antibiorésistance, finalement, on en prend conscience dès qu'on commence à développer de façon industrielle ces antibiotiques et à les utiliser notamment de façon très importante, notamment dans l'élevage animal ?
Oui, tout à fait. Alors, il se trouve que la résistance aux antibiotiques, c'est pas du tout un phénomène qui est nouveau, hein, parce que les premières résistances ont été décrites quelques années seulement après l'introduction de la pénicilline. Et donc, comme l'expliquait Jérôme, c'est une thérapie qui s'est développée massivement en Europe de l'Ouest et qui était extrêmement efficace. À tel point que son usage a été étendu de manière extrême et au point d'en faire un mésusage, si je puis dire, puisque les antibiotiques ont été utilisés de manière complètement systématique, que ce soit dans les secteurs de l'élevage, pour en fait en préventif, hein, pour éviter que les animaux soient infectés, contaminés par des bactéries. Ils ont également un côté facteur de croissance. Donc, ils ont vraiment été utilisés à des fins qui n'étaient pas forcément très très bien justifiées. Et on se retrouve actuellement dans une situation qui est très très délicate, puisque on estime, un rapport de l'OMS récent a estimé que en 2019, il y a plus d'un million de morts à travers le monde qui ont pu être attribuées à la résistance aux antibiotiques. Et si on fait des projections pour l'avenir, donc en 2050, on estime que ce seront 10 millions de morts par an à travers le monde. Et pour donner une idée, ça place l'antibiorésistance comme la première cause de mortalité devant les cancers.
Et on comprend du coup à partir de ces chiffres.
Voilà, une pandémie qui est silencieuse, puisqu'on n'en parle pas énormément, peut-être de moins en moins silencieuse, mais qui est massive et qui est imminente, enfin déjà présente et qui va s'aggraver.
Et qui nous engage finalement dans les décennies qui viennent à devoir lutter finalement contre un enjeu de santé publique mondiale. Jérôme Gabart, on comprend bien avec ces chiffres finalement le retour d'intérêt depuis les années 90 autour des bactériophages. Il faut savoir qu'en France, jusqu'en 1977, le Vidal, qui est le dictionnaire des médicaments et donc des prescriptions possibles, faisait mention de la phagothérapie, puis en 1978, ça a complètement disparu. Que sait-on de cette disparition-là? Est-ce que c'était vraiment que c'était une thérapie qui était beaucoup trop anonyme, beaucoup trop ciblée, beaucoup trop différente des autres, qui a fait que ça a disparu? Quelles sont les raisons qu'on peut évoquer pour cette disparition-là?
Non, je pense que la principale raison, c'est la facilité d'usage des antibiotiques par rapport aux bactériophages. Un antibiotique, quand vous avez une infection aujourd'hui, les choses commencent à changer maintenant, mais à l'époque, lorsque vous avez une infection, on faisait de l'antibiothérapie probabiliste. Ça veut dire qu'on ne savait pas l'infection que vous aviez, même encore aujourd'hui, ça se passe comme ça. On vous administrait un antibiotique en disant, c'est celui-ci qui va être votre infection. Vous allez voir le médecin, on vous prescrivait tel antibiotique, mais sans savoir du tout la bactérie que vous aviez. Et puis ça ne marchait pas, on vous en donnait un deuxième. Si ça ne marchait pas à nouveau, là on commençait à se poser la question, et on vous faisait faire des analyses plus précises à l'hôpital pour regarder vraiment le spectre de l'antibiotique qu'il fallait utiliser pour tuer la bactérie que vous aviez. Si vous avez un bactériophage, vous n'avez pas cette possibilité-là. Vous devez d'abord être sûr de la souche, voire de l'espèce bactérienne, surtout que le patient est porteur. Il faut savoir si c'est une Escherichia coli, un Pseudomonas aeruginosa ou un Staphylococcus doré pour pouvoir administrer le bon produit. Donc ça change complètement la manière d'utiliser les anti-infectieux, parce que quand vous avez un produit tout venant, vous faites beaucoup plus facilement un traitement. Alors le gros défaut que ça représente, c'est quand vous avez un produit tout venant, moi que j'appelle un lance-flamme, c'est que vous ne faites pas que tuer l'infection du patient, mais vous désinguez aussi tout son microbiote. Et là, vous vous retrouvez avec un environnement où tout un ensemble d'espèces bactériennes a été tué. Et si dans votre population bactérienne existait, déjà été présente, une bactérie qui n'est pas très bonne pour vous, qui était multirésistante aux antibiotiques, vous lui donnez en fait un champ libre pour qu'elle se développe.
Et finalement, cette histoire des bactériophages et de l'antibiorésistance nous place face à un modèle médical dans son ensemble, et on y reviendra tout à l'heure dans les pistes que ça ouvre pour une médecine éventuellement du futur. Mais avant ça, on va poursuivre dans notre portrait robot de ces bactériophages, et on va faire une petite mise à jour de nos connaissances sur ces petits virus.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
On poursuit le récit de cette épopée des bactériophages avec vous, Anne Chevalereau et Jérôme Gabart. J'aimerais à présent donc qu'on donne une vision actualisée de nos connaissances sur les phages. Anne Chevalereau, je le disais en début d'émission, on a une présence particulièrement abondante sur Terre de bactériophages. Ils sont 10 fois plus, on compte 10 fois plus de bactériophages que de bactéries. On estime à 10 puissance 31, donc 31 zéros après le 1, le nombre de ces bactériophages sur Terre. Devant cette abondance, est-ce qu'on a une connaissance de toute la multitude des types de bactériophages? On imagine que c'est un peu compliqué.
En effet, c'est extrêmement compliqué. Donc, comme vous le disiez, on estime qu'il y a 10 puissance 31 bactériophages à la surface de la Terre. Pour donner une idée, je ne sais pas si ce sera plus parlant, mais ça représenterait 200 millions de tonnes de biomasse. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, ça représente 10 fois plus d'entité que le nombre de bactéries à la surface de la Terre. Évidemment, c'est un ratio qui est variable selon les environnements, puisque tous les environnements ne sont pas aussi riches en phages les uns que les autres. Il faut peut-être d'abord préciser que donc ces bactériophages, ils sont ubiquitaires, donc on les retrouve vraiment partout là où il y a des bactéries. Donc ça peut être dans des systèmes d'eau salée, donc dans la mer, dans les océans, dans des systèmes d'eau douce, dans les sols, associés aux animaux, donc chez l'humain évidemment, au sein du microbiote intestinal, microbiote de la peau, microbiote pulmonaire. Il y a des bactériophages qui sont associés aux plantes également. Et puis, de manière peut-être un peu plus anecdotique, mais assez spectaculaire aussi, on retrouve des bactériophages dans des environnements assez extrêmes, comme le désert ou même dans le sol de l'Antarctique. Et puis, une observation qui m'a fait assez sourire aussi, c'est qu'on a retrouvé des bactériophages dans des échantillons très très anciens, par exemple donc chez des momies. Mais du coup, pour revenir à votre question, donc on a ces bactériophages qui sont extrêmement abondants, plus ou moins abondants sur les environnements, comme je le disais, et qui, en plus de leur abondance, présentent une diversité qui est fantastique. On estime à l'heure actuelle qu'il y a plus de 100 millions de génomes de bactériophages différents. Et ce qu'on sait, et la certitude qu'on a actuellement, c'est qu'en fait, on commence tout juste à gratter la vérité. Et donc, on a observé que la surface émergée de l'iceberg, donc toute la diversité des bactériophages reste complètement à aller découvrir. Donc c'est effectivement extrêmement difficile de bien estimer la diversité réelle de ces virus.
Et d'avoir une typologie effectivement exhaustive, comme vous le soulignez à l'instant Anne Chevalereau, Jérôme Gabart, on peut quand même essayer de se dire et croire que les bactériophages fonctionnent à peu près tous de la même façon, ou en tout cas ont des points communs. Alors quels pourraient être les points communs? Est-ce que déjà d'un point de vue de leur forme, de leur structure, parce qu'ils ont des formes assez atypiques, ils se ressemblent globalement tous? De ceux qu'on connaît, on va dire.
Alors, il y a plein de sortes de bactériophages avec des formes très différentes. Ça peut être des petites formes comme des petits vers. Les plus communs qu'on utilise pour la thérapie ont une forme particulière. L'image que j'utilise souvent, c'est celle du module lunaire, le LEM. Vous voyez, avec son espèce de tête, un petit peu isocaédrique. Et avec des petites pattes pour se poser à la surface de la Lune, ben le phage, un des phages les plus communs utilisés, il a cette forme-là, avec une espèce de corps contractile qui se contracte pour injecter son matériel génétique à l'intérieur de la bactérie qu'il va infecter. Ce matériel génétique, ça peut être de l'ADN, ou de l'ARN, soit en double brin, soit en simple brin. Et alors, il s'avère que les phages thérapeutiques qu'on utilise le plus souvent, il y en a trois types. Il y a ce petit modèle qui ressemble un peu au module du LEM. Il y en a un autre qui a la même tête, mais avec des petites pattes beaucoup plus courtes. Et un troisième qui a encore des pattes encore beaucoup plus courtes. Je ne vais pas citer leurs noms scientifiques, qui sont un petit peu barbares. Et donc, par contre, les phages thérapeutiques, et Anne me corrigera si je dis une bêtise là-dessus, à ma connaissance, sont tous des phages avec de l'ADN.
Anne Chevalereau, vous confirmez ?
À ma connaissance, oui, effectivement, 90% des bactériophages qu'on connaît et qu'on utilise, que ce soit en laboratoire ou en thérapeutique, sont des phages comme Jérôme vient de le décrire, donc ADN double brin avec cette forme géométrique qui est très sympathique à observer sous un microscope électronique.
Alors, on parlait à l'instant, dans la voix de Jérôme Gabart, de ces cycles de vie des bactériophages. Peut-être qu'il faut préciser, Anne Chevalereau, comment fonctionnent ces bactériophages, comment ils font finalement pour se reproduire. Je crois qu'il y a deux types de cycles, l'un dit lithique, l'autre lysogénique. Aidez-nous à comprendre ce que ça recouvre et comment ça va conditionner l'existence de ces bactériophages.
Avant tout, je précise qu'à l'instar de la très grande diversité des bactériophages, ils ont également une diversité de cycles de vie. Mais comme vous le mentionnez, il y en a deux principaux, donc les mieux connus, les plus étudiés depuis 100 ans maintenant. Donc le cycle lithique, donc la façon dont ça se déroule. Donc vous avez ce bactériophage, ce module lunaire qui va la première étape, c'est d'atterrir sur sa bactérie cible. Donc pour cela, il doit trouver un récepteur à la surface de la bactérie pour lequel il est vraiment spécifique. Donc c'est comme si le phage avait une clé et le récepteur c'était un peu une serrure, et donc il faut qu'il y ait cette adéquation entre la clé et la serrure. Une fois que cette première étape qui est complètement cruciale est verrouillée, donc le phage va pouvoir injecter son matériel génétique au sein du cytoplasme, donc à l'intérieur de la bactérie. Et donc son cycle infectieux démarre. Donc là, le bactériophage, il a des gènes qui lui permettent d'aller vraiment complètement rediriger le métabolisme de la bactérie. Donc c'est un piratage pur et simple, et qui transforme la bactérie en une véritable usine à produire de nouveaux bactériophages. Et ça finit pas très bien pour la bactérie, puisque ce cycle lithique aboutit systématiquement à la destruction de la bactérie. Et à travers cette destruction, donc la bactérie va relarguer les nouvelles particules virales.
Une destruction qui peut intervenir dans des cycles assez rapides, si j'ai bien compris, du cycle lithique. La destruction de la bactérie dans le cadre de ce cycle lithique peut être plutôt rapide.
Oui, ça peut être extrêmement rapide. Hein. Les bactériophages, souvent ceux qui sont sélectionnés en thérapie, hein, on parle de 10-15 minutes. Donc c'est un cycle qui peut être en effet extrêmement rapide.
Alors le cycle lysogénique, quant à lui, Anne Chevalreau, il est un peu plus long. Alors expliquez-nous en quoi il consiste.
Alors, le cycle lysogénique, en effet, il est assez particulier. Donc, la première étape reste la même. Donc, le bactériophage doit s'absorber à la surface de sa bactérie et injecter son matériel génétique. Et là, en fait, pour les bactériophages qui ont cette propriété, ils ont deux choix. Donc, soit faire un cycle lithique pour produire des nouvelles particules virales et détruire leur hôte, soit s'engager dans ce cycle lysogénique, qui consiste à intégrer le matériel génétique du bactériophage au sein du chromosome bactérien. Et à ce moment-là, le phage rentre dans une espèce d'étape dormante où il va rester plutôt silencieux. Il ne va pas faire grand-chose à la bactérie, donc la bactérie va continuer sa vie, elle va se multiplier, et en se multipliant, en fait, elle va répliquer également l'ADN du bactériophage qui est intégré à son propre matériel génétique. Et ça peut durer pendant un certain nombre de générations. Donc voilà, on parle de transmission verticale hein, du bactériophage, donc qui est transmis donc de la bactérie mère à ses bactéries filles, voilà, pendant un certain temps. Et puis ce phage qui est intégré au chromosome bactérien, il peut se réactiver. Donc la réactivation, elle se fait souvent dans suite à un stress environnemental. C'est pas forcément parfaitement caractérisé, on connaît pas tout encore évidemment. Et donc cette réactivation, donc qu'est-ce qui va se produire? Donc c'est que le génome du bactériophage qui est intégré au chromosome bactérien va pouvoir tout simplement ressortir, et là il va recommencer le cycle lithique. Donc il va faire les étapes que je mentionnais précédemment, donc complètement détourner le métabolisme de l'hôte, produire à fond toutes les particules, toutes les protéines nécessaires pour l'assemblage de la particule virale, et in fine lyser la bactérie et relarguer les nouvelles particules.
Alors vous dites, Anne Chevalreau, qu'on ne sait pas tout, mais quand même depuis les observations un petit peu pleines de points d'interrogation de ces eaux du Gange, de ces eaux de fleuve indien en 1896, il y a quand même pas mal de chemin qui a été parcouru. On a beaucoup parlé de l'aspect thérapeutique potentiel des bactériophages. Il faut dire aussi, puisque là on parle un peu plus des résultats que nous ont apporté la recherche et la recherche fondamentale sur les mécanismes de ces bactériophages, il faut dire que les bactériophages sont aussi des alliés, d'une certaine façon, Jérôme Gabart, de la recherche fondamentale et de très grandes avancées dans la recherche en biologie moléculaire depuis les années 1950. Dans quel cas, finalement, a-t-on eu recours à certains de ces bactériophages? Je crois qu'il y en a un, c'est un peu la star, c'est celui qu'on appelle T4, qui est beaucoup utilisé comme modèle en biologie moléculaire. Dans quel cadre, finalement, a-t-on eu recours à des bactériophages pour faire avancer la recherche fondamentale en biologie moléculaire ?
Il y a eu plusieurs domaines scientifiques dans lesquels les phages ont été utilisés et sont toujours utilisés. Notamment, il y a quelque chose qu'on appelle le phage typing, qui est une méthode d'identification des souches bactériennes grâce à une collection de bactériophages qui, en fait, permet quelque part de caractériser bien les souches les unes par rapport aux autres en fonction de leur comportement par rapport à cette collection de bactériophages. Et puis quelque part, je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit que la découverte de l'ADN, quelque part, est due à des études faites sur les bactériophages. Watson et Crick, quelque part, ont découvert la structure hélicoïdale de l'ADN par des travaux préliminaires qui avaient été faits avec des bactériophages.
Anne Chevalreau, on parle de l'ADN, on peut parler aussi de CRISPR-Cas9, plus proche de nous, qui ont ce ciseau moléculaire, qu'est-ce qu'il doit aux bactériophages ?
Oui, en effet, en fait, les bactériophages ont été complètement centraux dans la découverte de ce qu'on appelle CRISPR-Cas9. Alors, donc, il faut savoir qu'à l'origine, CRISPR-Cas, c'est un système qui est codé par les bactéries. Et son rôle physiologique, tout simplement, c'est un système qui permet aux bactéries de se défendre contre les bactériophages. Donc c'est souvent comparé à un système immunitaire adaptatif. Donc en fait, avec ce système, les bactéries ont la faculté d'aller reconnaître une infection phagique, de capturer une petite séquence du bactériophage, de l'intégrer dans son génome, un peu comme une sorte de répertoire, de mémoire de cette infection. Et si cette bactérie est, dans le futur, à nouveau exposée à ce bactériophage, elle a cette mémoire dans son génome qui lui permet, de manière très très efficace, d'aller reconnaître que la molécule d'ADN qui est en train d'entrer dans son cytoplasme est en fait une molécule exogène qui provient d'un bactériophage et que, du coup, il faut réagir très très vite. Et cette reconnaissance va permettre l'action ensuite d'une enzyme, donc qu'on appelle Cas, ou Cas9 dans certains cas, dont le rôle tout simplement est d'aller découper ce morceau d'ADN et donc de mettre fin à l'infection phagique.
Donc là, on comprend bien finalement ADN, CRISPR, Cas9 sont quand même parmi les plus grandes avancées dans le domaine de la biologie moléculaire, la place centrale qu'ont joué ces bactériophages. Restez avec nous, parce qu'après avoir présenté à la fois cette histoire des bactériophages et ce portrait robot de ces virus, on va en venir maintenant à la recherche actuelle sur ces questions-là et au retour éventuel à la phagothérapie. Ce sera juste après ça. Par Björk dans la science CQFD sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui d'une histoire épique dans le domaine de la biologie et plus précisément de la biologie moléculaire. Nous parlons de l'épopée encore inachevée des bactériophages et nous en parlons avec Anne Chevalereau, chercheuse CNRS au laboratoire microbiologie moléculaire et biochimie structurale de Lyon, et avec Jérôme Gabart, président de l'entreprise Biomage. Alors, après avoir présenté ensemble l'histoire de la découverte des bactériophages et l'évolution de la phagothérapie, et aussi avoir présenté, bien sûr, l'état de nos connaissances sur ces phages, venons-en à présent au reportage du jour. La crise de l'antibiorésistance et les troubles du microbiote, entre autres, ont mis en évidence les bénéfices thérapeutiques offerts par l'exploitation des phages. Mais cela requiert de savoir bien identifier les relations au niveau moléculaire qui les connectent aux bactéries. Pour comprendre comment on parvient à observer ces relations, nous sommes allés au laboratoire Régulation spatiale des génomes de l'Institut Pasteur. Avec vous, Céline Lozen. Bonjour Céline.
Bonjour Antoine, oui, des relations qu'on sonde à l'échelle du métagénome par des méthodes de biologie moléculaire couplées à de l'analyse bioinformatique. Alors il s'agit de révéler les connexions phages hôtes en ciblant des zones de contact par des tests de ligature de proximité appliqués sur des échantillons de microbiote. Martial Marbouti, chercheur CNRS, a ainsi identifié des milliers d'interactions tissant le panorama d'un vaste réseau écologique. Une avancée publiée en 2021 dans la revue eLife qui ouvre des thérapies comme la phagothérapie et qui améliore aussi nos connaissances de ces écosystèmes.
Le laboratoire a plusieurs thématiques. Et là, on est plus dans la partie qui est la mienne. Donc, où en fait, on va avoir tout le matériel pour échantillonner. Donc, typiquement, on a différents écosystèmes qu'on étudie. On étudie actuellement, on a deux grands projets. On va étudier les populations microbiennes de la baie de Brest et leur dynamique. Donc, pour ça, on va suivre pendant 2 ans tout l'écosystème de la baie de Brest en échantillonnant toutes les deux semaines. Pour essayer de comprendre un peu cette dynamique, maintenant qu'on a eu une vision horizontale de différents échantillons, maintenant on aimerait une vision dynamique un peu de ces interactions phage-bactéries en lien avec la météo, les changements de température, de salinité, de pH de l'océan. Et un autre où on va étudier une cohorte mère-enfant, donc pour étudier le développement du microbiote intestinal et notamment le rôle des phages, des virus, des bactéries au cours du développement du microbiote intestinal. On estime dans le microbiote intestinal humain avoir environ entre 200 et 300 espèces présentes dans le microbiote intestinal humain des populations occidentales. Et on a à peu près 2 à 3 fois plus de génomes de virus, de phages présents. Donc en fait, on a énormément de relations. On peut caractériser un nombre incalculable de relations entre ces virus et ces bactéries. Et donc pour les étudier, on va avoir des représentations un peu sous forme de réseaux d'interaction comme on pourrait avoir si on étudiait par exemple les réseaux d'interaction avec des virus et des bactéries, savoir qui sont les amis de qui ou qui sont les ennemis de qui en fait.
Et justement pour caractériser ces affinités, vous avez utilisé un modèle je crois qui peut être déployé pour décrire des interactions sur des réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. Donc un des outils qu'on va utiliser, en fait, c'est un algorithme d'étude des réseaux sociaux, ou qui a en tout cas été utilisé pour étudier des réseaux sociaux. Et en fait, on va utiliser le même genre d'approche, les mêmes algorithmes qui vous permettent en fait de savoir, qui vont vous proposer des nouveaux amis ou vous proposer des nouvelles pages auxquelles vous pourriez être intéressé. On va utiliser le même type d'algorithme du fait qu'on ait en fait ces relations et ces interactions.
Comment il est possible avec des outils en génomique, en biologie moléculaire, voire en bioinformatique, pour mettre en évidence les relations fines qu'il y a entre les populations bactériennes et ces phages?
Alors, c'est là que ça devient intéressant, et on va dire, c'est là qu'a été l'apport de notre laboratoire et de nos travaux. C'est qu'en fait, on va se servir d'une technologie qui sert à étudier l'organisation spatiale des chromosomes en 3 dimensions, pour aller étudier en fait les collisions entre molécules d'ADN. Et donc on va étudier en fait, on va mesurer les collisions entre l'ADN du phage, du virus, et l'ADN de la bactérie. Et en fait, en étudiant ces collisions, on a accès à un réseau d'interactions entre ces virus et ces bactéries, et c'est ce qui va nous permettre d'étudier vraiment ces interactions entre virus et bactéries au sein des écosystèmes naturels.
C'est ces zones-là qu'on appelle les ligatures de proximité?
Tout à fait, c'est exactement, c'est la technique qu'on appelle donc la ligature de proximité. On va en fait lier ensemble des fragments d'ADN qui sont proches les uns des autres dans l'espace. Et donc ça peut être des fragments d'ADN issus d'un virus et des fragments d'ADN issus d'une bactérie. Donc là, on a en fait quelques matériels pour échantillonner. Donc ça, c'est principalement pour échantillonner l'océan. Donc on va avoir des filtres, des bidons pour récupérer de l'eau et puis la passer au travers de différents filtres de différentes tailles pour récupérer des micro-organismes de tailles différentes. Et ensuite, les échantillons vont être mis au froid, à moins 80 degrés, avant d'être processé dans le laboratoire. Et donc pour ça, la première étape, ça va consister en fait à broyer l'échantillon, c'est-à-dire à extraire l'ADN et les protéines qui sont présents dans l'échantillon. Et pour ça, en fait, on utilise des billes donc, qui vont permettre de broyer. Donc là, vous avez exemple des billes.
Des vraies billes.
Voilà, des vraies billes. Donc ça, c'est vraiment d'abord des très grosses billes qui vont casser le filtre sur lequel on a mis les différents micro-organismes. Et ensuite, une fois que le filtre est broyé, on va passer à des billes bien plus petites qui, elles, font 0,5 et 0,1 mm. C'est vraiment comme du sable. Mais, en fait, on va ensuite les mettre dans une machine qui va secouer très, très fort. Et les billes, par frottement, vont venir écraser, en fait, les micro-organismes et les broyer et les ouvrir. Donc là, vous avez la machine, le Presselis, qui va nous permettre de broyer ça. Donc, on ouvre la machine. Alors, il y a encore du froid dedans. Et là, il y a le scotch, je ne vais pas l'enlever. Oui, on dirait, c'est un peu un gros robot de cuisine. Donc, en fait, on va placer les plus petits tubes pour les plus petits échantillons. Donc en fait, on met de la glace carbonique dans le haut de la machine. qui va permettre en fait de broyer les échantillons à froid. C'est important parce que le broyage crée un échauffement local assez important et on veut préserver au maximum les échantillons. Donc on place nos échantillons dans la machine, dans les tubes. La machine va d'abord refroidir. On va ensuite tranquillement attendre et ensuite ça se met à vibrer très très fort pendant 5 minutes. Donc généralement les échantillons ressortent broyés. Là, il y a vraiment très peu de cellules intactes à la sortie de cette étape de broyage. Voilà, ça va nous permettre ensuite, on va récupérer l'ISA et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler, faire notre technique où on va ligaturer ensemble des fragments d'ADN qui sont proches les uns des autres dans l'espace, qu'on va ensuite passer dans un séquenceur à haut débit qui sera ensuite étudié en pharmacie.
Quelles sont les perspectives thérapeutiques ouvertes par les connaissances que vous avez pu générer avec cette étude-là ?
Alors, typiquement, une des technologies qui, en médecine, peut avoir un grand potentiel, c'est la greffe de microbiote intestinal. Et il est important, quand on fait une greffe de microbiote intestinal, on va aussi greffer des virus. Et donc, il est important de savoir si ces virus ne vont pas avoir des cibles ou des autres potentiels qui ne sont pas ceux qu'on pensait être. Et donc, c'est très important de savoir quel phage va être capable d'infecter quel hôte bactérien pour éviter typiquement des problèmes au cours de ces opérations.
Merci beaucoup Céline Lozen. On peut retrouver votre reportage et tous les précédents dans la collection La Science au Labo. On trouve tous les podcasts sur l'appli Radio France et bien sûr, mais aussi sur la page de La Science au Labo sur le site de France Culture, franceculture.fr. Alors on comprend bien, Jérôme Gabart, que les bactériophages intègrent des recherches qui concernent d'autres applications. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez retenu de ce reportage-là et quelles réflexions ça vous amène à proposer.
Mais évidemment, moi ça me fait tout de suite rebondir sur l'utilisation des phages maintenant dans le domaine thérapeutique pour soigner des infections bactériennes multirésistantes aux antibiotiques. Avant d'être le PDG de Biomage, j'ai dirigé une société qui s'appelle Ferecides Pharma, enfin, qui aujourd'hui est devenu Faxiam. Et on a vu arriver les premières demandes de traitement compassionnel pour soigner des patients qui n'avaient plus de solution, plus d'autres recours que les bactériophages pour essayer de les sauver. Je me souviens du premier cas qu'on a eu qui remonte à 2010. C'était vraiment très précoce. Hein. On commençait tout juste à réutiliser les bactériophages en phagothérapie. Où en fait, avec le service de santé des armées et l'hôpital Percy, on a eu un patient qui était un technicien agricole qui a eu la mauvaise idée d'aller vouloir nettoyer une cuve de produits phytosanitaires et de s'éclairer avec son briquet dans la cuve. Et évidemment, la cuve a explosé, il a été très très gravement brûlé, il a eu les poumons complètement, très très endommagés. Et donc il a développé une infection respiratoire carabinée, si ma mémoire est juste, c'était un pseudomonas aeruginosa. Et donc, on a fait une demande à l'époque à l'ancêtre, enfin, le précurseur de l'Agence nationale du médicament, avant la NSM, qui avait un autre nom que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Et on a eu ni un avis positif, ni un avis négatif, mais sachant que la personne risquait vraiment de décéder, on a eu l'autorisation de faire notre premier traitement de bactériophage à l'époque. Enfin, en tout cas, il y en a d'autres qui avaient été faits, mais par d'autres personnes, dont notamment le docteur Alain Dublanchet, qui était très important dans la phagothérapie, et le docteur Olivier Patet, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Et donc, on a fait ce traitement chez ce patient qui avait des poumons en lambeaux. Donc, malheureusement, il est mort de son infection, mais la bonne nouvelle, c'est que quand l'hôpital a fait des prélèvements avec le docteur Patrick Jo, on a fait des prélèvements de microbiologiques dans les poumons, on s'est rendu compte que l'infection avait été éradiquée.
Donc là, on parle de cas rares de patients qui sont, comme vous le dites, dans des impasses thérapeutiques. Et donc, on parle de traitement compassionnel, c'est-à-dire qu'on met en place finalement une exception très ponctuelle, très individuelle. Mmh. Il y a plusieurs patients aussi qui, ne trouvant pas de traitement, vont se faire soigner ailleurs, en Géorgie notamment, où là encore, beaucoup de gens vont... Enfin, beaucoup. Des personnes qui sont dans des cas d'impasse thérapeutique vont chercher des remèdes et finalement se font traiter par phagothérapie.
Anne Chevalereau, puisqu'on parle de phagothérapie, j'aimerais comprendre finalement les raisons pour lesquelles, alors qu'on évoquait tout à l'heure les enjeux colossaux que représente l'antibiorésistance, la phagothérapie n'est pas encore une option. Qu'est-ce qui limite finalement le recours aux phages dans le cadre de traitement de personnes qui sont atteintes par des infections bactériennes?
Oui, alors en effet, il y a différentes limites à la phagothérapie. Actuellement, une limite qui est très importante, c'est une limite réglementaire, hein, puisque la façon de produire et d'utiliser les médicaments a été basée plus sur l'utilisation de molécules chimiques, comme les antibiotiques. Et donc, il n'y a pas la réglementation adéquate qui permet d'utiliser un produit plutôt vivant.
C'est toujours le débat. Est-ce qu'un virus appartient au vivant ou pas? C'est
vraiment... avec des guillemets, puisque tout le monde n'est pas d'accord sur le côté vivant ou non des bactériophages, peu importe. Donc voilà, il y a ce cadre réglementaire qui doit évoluer si on veut que la phagothérapie puisse prendre son essor. Après, il y a des limites qui sont aussi plus donc médicales et biologiques, hein. Effectivement, à l'inverse des antibiotiques, la phagothérapie ne sera pas une arme de destruction massive. Donc voilà, différentes raisons à ça. Comme on l'a évoqué au cours de l'émission, les bactériophages sont des virus qui sont très spécifiques, donc on doit absolument connaître l'agent, la bactérie qui cause l'infection pour pouvoir les utiliser correctement. Il faut également que les phages parviennent à atteindre leur site infectieux au sein du corps humain, ce qui est pas toujours évident. Et les cas de phagothérapie qui marchent le mieux, c'est les cas où on peut directement administrer les bactériophages in situ, donc typiquement dans le cas de plaies infectées, par exemple. Voilà, on a également des infections qui sont polymicrobiennes très souvent, donc ce qui présuppose également de bien caractériser les différents agents qui produisent l'infection et d'avoir les bactériophages fonctionnels en conséquence. Et puis évidemment, il y a l'émergence des résistances aux phages, puisque comme pour les antibiotiques, les bactéries ont la capacité de devenir résistantes aux bactériophages.
Oui, tout ça reste finalement une affaire d'évolution et c'est une course à l'armement permanente entre bactéries, virus et des bactériophages. Évidemment, on n'échappe pas à la règle. Donc il y a aussi une résistance qui peut se développer aux bactériophages. Jérôme Gabart, d'un point de vue, si on doit... Alors, je vous demanderai pas de faire les Cassandres et de me dire à quoi ressemblera le futur, mais il y a globalement trois scénarios sur le recours et le développement de la phagothérapie. Un scénario où les choses se ferait plus à l'échelle de l'hôpital, un scénario où ça se passerait de façon un peu plus industrialisée, et un troisième scénario qui mélangerait un peu les deux. Pourquoi ces trois scénarios ne sont pas forcément complémentaires et voire s'opposent ?
Bien, si on parle du point de vue du développement d'un médicament classique, pour l'industrie pharmaceutique, un médicament doit être facile à utiliser et avoir un spectre relativement large pour qu'on puisse fabriquer un produit qui est vendu dans le commerce et qu'on peut administrer assez facilement. Donc ça va vers la logique de faire un produit prêt à l'emploi, qui doit être composé dans ce cas-là de plusieurs dizaines, de plusieurs unités de bactériophages, et que ce produit doit conserver son activité de manière permanente. Or, on sait très bien que les populations bactériennes vont évoluer par rapport aux phages, et que donc ce produit devra être réadapté tous les 2 ans, probablement tous les 3 ans, de manière à s'assurer qu'il est toujours efficace contre l'espèce bactérienne ciblée. Et il y a l'autre approche qui est beaucoup plus hospitalière, qui est de dire on fait de la médecine personnalisée en quelque sorte, hein. On prend la bactérie du patient et on recherche le phage efficace ou les phages efficaces contre cette bactérie et uniquement contre cette bactérie. Et on administre ce produit à l'hôpital. Donc d'un côté, c'est une préparation pharmaceutique lorsque c'est l'hôpital qui le fait. De l'autre côté, c'est vraiment un médicament. Et les règles de production de ces deux entités médicamenteuses ne sont pas tout à fait les mêmes. Le médicament, ça doit suivre des règles, des bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique, qui sont des règles établies dans la pharmacopée européenne, dans la pharmacopée américaine, dans les pharmacopées du monde entier, et qui sont extrêmement strictes sur les méthodes de production. La reproductibilité, les tests de contrôle qualité, les tests de pureté des produits, et qui sont applicables pour quand on produit une molécule active, parce qu'on produit quelque chose qui va cibler des millions de personnes, des millions de patients, mais qui deviennent extrêmement onéreuses quand on veut faire des produits qui sont vraiment beaucoup plus taillés pour une petite population de patients. Et de l'autre côté, il y a la préparation pharmaceutique qui se fait en pharmacie hospitalière, avec des contraintes plus faibles, avec des contrôles qualité peut-être un peu moindres, mais en tout cas qui permettent de faire des produits à des coûts plus faibles. Donc là, il y a un peu ces deux chapelles en ce moment, qui s'opposent, soit qui se complètent. Mais c'est un peu ça l'avenir de la phagothérapie, d'arriver à assouplir les règles pour qu'on puisse arriver à faire des produits vraiment taillés pour les patients à un coût acceptable.
Ce qui est vraiment très intéressant dans cette histoire de la phagothérapie, c'est que finalement, elle nous place face aux limites de notre modèle de production des médicaments, puisque l'industrie pharmaceutique s'est globalement détournée de la recherche de nouveaux antibiotiques à partir du moment où l'antibiorésistance a été un tel problème qu'elle s'est dit, bon, à quoi bon redévelopper des antibiotiques qui seront inutiles dans 10, 15 ans? Donc, faut embarquer l'industrie pharmaceutique dans cette aventure des phages. Et de l'autre côté aussi, quasiment repenser notre modèle médical où on traite essentiellement les symptômes dans notre médecine occidentale. Voilà, comment les phages pourraient nous aider à repenser notre médecine?
Ben justement, en allant non pas vers ce traitement tout venant, qui ne se préoccupe pas du maintien du microbiote en bon état, et qui quelque part va avoir des effets secondaires qui peuvent être importants derrière, puisque lorsque vous détruisez la population bactérienne d'un patient en utilisant des antibiotiques trop puissants, ben, ces phénomènes de résistance recommencent et s'amplifient. Et Anne tout à l'heure donnait des chiffres. Quand elle a parlé de 1 million de morts, si on réactualise ça, c'est 1 million de morts directes dues directement à l'antibiorésistance, mais lorsqu'on regarde les chiffres de 2024, morts directes et indirectes, on est aujourd'hui à 5 millions de morts. Et on s'en va en 2050 à 10 millions de morts. Et aujourd'hui, en 2050, on va dépasser le nombre de gens qui vont mourir de manière directe ou indirecte à cause de l'antibiorésistance, on va dépasser le nombre de gens qui vont décéder du cancer. Il y a ces aspects qu'il faut prendre en compte. Et l'autre aspect qui pose problème dans la phagothérapie, c'est les capacités de production. La France, aujourd'hui, n'a quasiment pas de capacité de production de bactériophages. Pour faire des phages BPF, la société que je citais tout à l'heure, Faxiam, fait fabriquer ces phages à l'étranger. Il y a des capacités de production de préparation pharmaceutique aux Hospices Civils de Lyon. Il y a une très très bonne équipe là-bas qui a développé des capacités de traitement des infections stéro-articulaires grâce aux phages et des capacités de production de préparation pharmaceutique, mais on n'est pas encore dans les BPF, les bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique.
Et donc là, on en revient à un autre problème qui est un problème, lui, d'actualité, c'est l'incapacité à être autonome dans la production de certains médicaments et voilà, et même parfois on vend certains fleurons, on va dire, de notre industrie pharmaceutique. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Anne Chevalereau, Jérôme Gabart, de nous avoir expliqué les enjeux qui sont nombreux autour de cette histoire de la phagothérapie, une histoire qui s'écrit au présent. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo et sa chronique Avec Science. On reste un peu dans le thème de la santé et de l'horizon de la médecine personnalisée, avec une chronique consacrée aujourd'hui à une nouvelle thérapie génique.
Comment une thérapie génique hyper personnalisée a été développée en quelques mois seulement? Le patient est un petit garçon né avec une pathologie très rare, le déficit en carbamoyl phosphate synthétase 1. C'est une enzyme du foie qui transforme l'ammoniac en urée. Dans cette maladie, l'ammoniac ne peut pas être dégradé et il est toxique. Cela conduit à de graves symptômes qui mènent au coma et au décès dans 50% des cas. C'est une maladie ultra rare, elle touche un bébé sur 800 000 à 1 million. Seul moyen de lutte, la grève de foie, mais il faut attendre que l'enfant grandisse. Et les dialyses et les médicaments sont généralement insuffisants pour protéger le cerveau, d'où l'idée d'avoir recours à une thérapie génique pour corriger le gène défectueux. Anne Galli est directrice de recherche à l'INSERM. Elle dirige l'accélérateur de recherche technologique en thérapie génomique.
La thérapie génique, c'est une nouvelle approche médicinale qui consiste à traiter des maladies avec des gènes, des séquences de gènes, en modifiant, en enlevant ou en remplaçant des gènes. C'est une pratique qui est particulièrement bien adaptée au traitement de maladies génétiques rares, également aussi pour certains cancers. Et il faut savoir qu'il y a quand même donc 6000 maladies génétiques rares, dont une bonne partie sont des maladies qu'on appelle monogéniques, c'est-à-dire qui sont dues à la mutation d'un seul gène qui induit cette pathologie. Et donc, la thérapie génique a souvent été utilisée au départ pour simplement apporter une copie normale du gène muté ou déficient pour restaurer en fait la fonction des cellules ou traiter la maladie. Donc, il y a un médicament, un seul actuellement sur le marché qui est le Casgevy, qui est un médicament qui utilisent l'édition de gènes pour traiter la drépanocytose ou la thalassémie. Et pour le moment, c'est le seul qui existe comme ça.
Ici, pas question de couper le gène en entier ou d'en rajouter un. Non, c'est une technique beaucoup plus fine. La dernière évolution de la thérapie génique, nommée l'édition de base. Il s'agit de modifier une seule lettre dans le génome, une seule base, pour rendre l'enzyme de cet enfant à nouveau fonctionnel. C'est donc une thérapie hyper personnalisée, rendue possible grâce à l'avènement des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 et à partir du diagnostic très précoce de ce patient, une course contre la montre a démarré. Et c'est parce que la maladie est mortelle qu'un traitement innovant et donc potentiellement risqué a pu lui être proposé et il comporte beaucoup d'étapes. Les scientifiques ont construit des ciseaux moléculaires pour qu'ils ciblent spécifiquement une mutation. Il a fallu encapsuler le tout dans des petites vésicules, tester plusieurs combinaisons in vitro sur des cellules et in vivo dans des modèles animaux. Mais ce n'est pas tout. Après cela, il a fallu obtenir les accords des comités d'éthique et de la FDA pour finalement que KJ, c'est son nom, reçoive deux injections à l'âge de 7 et 8 mois.
Quand on regarde l'ensemble des collaborateurs associés à ce travail, c'est tout à fait remarquable. C'est un ensemble de laboratoires académiques, de sociétés en fait qui ont fourni soit les modèles de cellules de souris ou de primates qui ont été utilisés pour valider en fait toute cette stratégie. Ils ont choisi effectivement de faire des traitements dans ce qu'on appelle le système Expanded Access de la FDA, c'est-à-dire en gros des traitements compassionnés, où effectivement le board éthique de l'hôpital a réagi très rapidement en lien avec la FDA pour pouvoir permettre très rapidement de faire l'autorisation d'essais cliniques. Et en respectant quand même toute la réglementation et l'éthique, hein, puisque tout a été fait dans les règles, les protocoles cliniques ont été écrits, ils ont été revus, validés, les produits ont été fabriqués selon les bonnes pratiques de fabrication. Et je pense que là, c'est un exemple magnifique à suivre pour pouvoir développer voilà, plus rapidement encore des nouvelles thérapies. En 7 mois, ils ont fait le travail. Normalement, on pourrait penser qu'effectivement, il faudrait 3-4 ans pour faire en fait tout ce travail-là dans un laboratoire normal, entre guillemets, avec des pratiques normales.
Les premiers résultats ont été rapportés dans une nouvelle étude parue dans le New England Journal of Medicine. Ses taux d'ammoniac ont très nettement diminué et il a bien supporté le traitement. Alors, on ne sait pas encore quelle est l'efficacité de la thérapie génique en elle-même, c'est-à-dire à quel point les cellules de son foie sont modifiées. Il est pour l'instant trop petit pour subir une biopsie et il va donc encore être étroitement surveillé. Pour la suite, son traitement n'a pas vocation à être commercialisé ou même être utilisé par une autre personne, à moins qu'un autre bébé présente exactement la même mutation. En revanche, la démarche, elle, pourra être copiée pour d'autres maladies très rares. Et il faut le souligner, cette thérapie n'aurait pas pu voir le jour sans des années de recherche fondamentale, un travail collectif entre laboratoires publics et entreprises privées, et un financement massif du NIH, le nom des Instituts Nationaux de la Santé aux États-Unis. Or, ces conditions sont aujourd'hui menacées avec l'administration Trump.
Merci beaucoup Alexandra Delbon, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Lou Angès, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Ali Ruyer-Thompson, Eve Etienne, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Natacha Triou, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Olivier Arnay. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission et les précédentes sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans la Science CQFD. En attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.